Vous écoutez, on lit pour vous.
Le Japon submergé par le succès mondial du matcha. Un texte de Caroline Gardin et Romain Fonsegrive de l'agence France Presse, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Au cœur de Los Angeles, des clients défilent chez Kettle, un bar à matcha minimaliste qui a ouvert ses portes cette année. Décors épurés, étagères en bambou, bols de céramique et théières artisanales, la poudre de thé japonaise s'y prépare comme un grand cru. Le matcha, thé vert japonais en poudre produit à base de feuilles séchées puis broyées, est devenu la star des boissons bien-être sur les réseaux sociaux et dans les boutiques de thé. Sur les 25 types de matcha proposés, 21 sont en rupture de stock, explique à l'agence France Presse Zach Mangan, 40 ans, fondateur de Kettle. Dans son établissement, le matcha peut être servi avec du lait, mais il est souvent préféré nature, fouetté à la main, pour mieux apprécier ses arômes. Vendu par paquet de 20 grammes, la poudre verte coûte entre 23 et 140 euros selon la variété choisie. En l'espace d'un an, la production s'est retrouvée dépassée par une demande en forte hausse, entraînant une envolée de 198 % du prix de cette poudre verte au Japon, selon M. Mangan. Une telle volatilité, c'est du jamais vu dans l'histoire du thé japonais, assure-t-il. Dans la ville de Sayama, en banlieue de Tokyo, Masahira Okutomi, 15e génération à la tête de l'exploitation de thé familial, a lui aussi été submergé par les demandes. « Je reçois jusqu'à 3 messages par jour. J'ai dû mentionner sur notre site que nous n'acceptons plus aucune commande de matcha », affirme le producteur. La fabrication de cet or vert est un processus long et artisanal. Les feuilles appelées « tencha » sont cultivées à l'ombre pendant plusieurs semaines avant la récolte, puis sont cueillies à la main et débarrassées de leurs nervures avant d'être finement broyées. « Il faut des années de formation », explique M. Okutomi. « C'est un travail de longue haleine qui demande du matériel, de la main-d'œuvre et des investissements. Nous n'arrivons plus à suivre. » « Je suis heureux que le monde s'intéresse à notre matcha, mais à court terme, c'est presque une menace. Nous n'arrivons plus à suivre », s'inquiète le cultivateur, qui consacre un tiers de ses champs à la poudre verte. Le boom du matcha trouve son origine sur les réseaux sociaux où des créateurs de contenu comme Andy Ella, 600 000 abonnés sur YouTube, ont popularisé cette boisson d'un vert éclatant. Dans le quartier jeune et à la mode de Harajuku, à Tokyo, la Française a ouvert une boutique éphémère pour sa marque de matcha. À l'intérieur de la boutique, à la décoration rose pastel, des dizaines de fans se pressent pour se prendre en photo avec l'influenceuse et acheter ses canettes de thé matcha saveur fraise ou chocolat blanc. « Le matcha, c'est visuellement très attirant », explique la youtubeuse de 23 ans. Avec 8 employés, sa marque lancée en novembre 2023 connaît un beau succès. 133 000 canettes de matcha produites dans la région de Mie ont déjà été vendues et la demande ne fait qu'augmenter, souligne-t-elle. Dans le quartier touristique de Tsukiji à Tokyo, la boutique de thé Juketsu Sudo cherche, elle, à réguler ses ventes face à une demande de plus en plus forte. « Nous n'imposons pas strictement de limite à l'achat, mais il nous arrive de refuser la vente de grosses quantités à des clients soupçonnés de revente », explique Shigeito Nishigida, responsable de la boutique. Depuis 2 ou 3 ans, l'engouement s'est intensifié. Les clients veulent désormais préparer eux-mêmes du matcha, comme sur les réseaux sociaux, ajoute M. Nishikida. En voyage au Japon, Anita Jordan, touriste australienne de 49 ans, abonde. « Mes enfants sont obsédés par le matcha. Ils m'ont envoyé en mission pour trouver le meilleur. » Surtaxe douanière. En 2024, le matcha a représenté un peu plus de la moitié des 8 798 tonnes de thé vert exportées, selon les chiffres du ministère japonais de l'Agriculture, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans. Mais cette croissance du marché mondial du matcha, estimée à 3 milliards d'euros en 2024, s'accompagne d'inquiétudes liées aux tensions commerciales. Les clients disent « Je veux du matcha avant qu'il n'y en ait plus », souligne Zach Mangan dans son établissement californien. Au Japon, le prix moyen du tencha a atteint le record de 44 euros le kilo, 8 235 yens, lors de la première enchère de la saison à Kyoto, soit 1,7 fois plus qu'en 2024. Le fondateur de Kettle craint une autre menace avec les droits de douane américains sur les produits japonais qui pourraient passer de 10 à 24% en juillet 2025. C'est une période difficile. On essaie d'absorber une partie des coûts, mais il y a des limites. On ne peut pas augmenter les prix indéfiniment, explique-t-il. Au Japon, la situation des producteurs de thé reste fragile. Le nombre d'exploitations a été divisé par 4 en 20 ans. La question reste de savoir si l'on peut produire en masse sans sacrifier la qualité, s'interroge Masahiro Okutumi. Le gouvernement japonais encourage désormais les producteurs de thé à produire à grande échelle pour réduire les coûts. Mais dans les petites régions rurales, c'est presque impossible, explique M. Okutumi. La formation de la nouvelle génération prend du temps. Cela ne s'improvise pas. C'était « Le Japon submergé par le succès mondial du matcha », un texte de Caroline Gardin et Romain Fonsegrive de l'agence France Presse, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.
Le Grand Espace, théâtre tout neuf pour les jeunes, un texte de Catherine Lalonde, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir. Le rideau s'est levé sur un tout nouveau théâtre à Sherbrooke. Le Grand Espace, pensé et conçu pour les spectacles jeunesse, a été inauguré le 23 mai 2025, après plus de 10 ans de travail. Réfléchi avec le milieu des arts, poussé par la ville, cette nouvelle salle de 300 places veut renverser la vapeur, car l'esprit comptait, avant cette ouverture, parmi les fréquentations les plus basses du Québec en théâtre jeune public. Pour remporter le pari, il faut maintenant attirer les écoles de la région et en faire des habitués, idéalement en un an. Ce grand espace, c'est le théâtre qui s'est ajouté au Centre des arts de la scène Jean Besseré, CASJB, ouvert depuis 2008. Un centre qui compte 3 studios de répétition, un local de production, des ateliers de fabrication de décors et de costumes et une salle de montage vidéo. Désormais, 2 couloirs permettent de passer du théâtre au centre de création et vice-versa. Je suis tombée des nues la première fois que j'ai travaillé au CASJB, se souvient l'actrice Véronique Pascal, qui y était en 2019 pour créer Prince Panthère avec le petit théâtre. Tout était là, dans un seul et même lieu. J'ai jamais vu ça. Les bureaux, les ateliers, les costumes, les décors, les salles de répétition, les gens. Pour moi, c'est révolutionnaire, poursuit celle qui est également vice-présidente du Conseil québécois du théâtre, CQT. parce que toutes les conceptions nécessaires à la création peuvent avancer en même temps que l'écriture et que l'interprétation. Un essayage de costume révèle que ce serait mieux avec une boucle en moins. Un ajustement en plus? La conceptrice retourne dans son atelier à quelques portes et revient après quelques heures en répétition pour que je puisse réessayer tout de suite, illustre la femme de théâtre. Pour Madame Pascal, une salle de spectacle qui s'ajoute à ce lieu de création particulièrement bien pensé en fait un lieu idéal. C'est un success story, estime-t-elle. Devine qui vient jouer. Lily Bergeron, directrice générale de Côté Scène, qui a charge de la programmation du nouveau théâtre, rayonne en visio-entrevue. Fierté et sentiment du devoir accompli sentons. La représentation du potager du Petit Théâtre le 15 juin l'a rassérénée. On y a tellement pensé à ce théâtre, on l'imagine depuis tellement d'années, et là, j'ai vu les enfants aller s'asseoir naturellement, prendre les crayons sur les tables pour dessiner, pendant que les parents peuvent se commander un verre en arrière. J'ai vu qu'ils se sentaient tous chez eux, qu'ils y étaient bien, que ça devenait leur lieu. Ça, c'est extraordinaire. Le très long temps qu'a pris ce projet artistique de Sherbrooke à se développer fut aussi une de ses clés, croit Madame Bergeron. Mené d'abord par le Petit Théâtre, le Théâtre du Double Signe et la Compagnie de danse Sursaut, qui avaient besoin d'une scène pour leur spectacle et s'étaient réunis en 2009 sous le nom de Côté Scène, le théâtre sert désormais également 5 autres compagnies de la région. Il s'agit, en danse, d'Axil et Zemmour Ballet, de la multidisciplinaire Labo Crackboom, et en théâtre, de Traces et Souvenances et des Petites Lanternes. Ces compagnies résidentes ont été choisies et nommées par la ville. Mais le grand espace n'est pas leur théâtre. En tant que diffuseur spécialisé, il doit accueillir des spectacles jeunesse de partout. La programmation passe de 4 ou 6 spectacles par année à 14, relate Madame Bergeron, excitée et un peu apeurée devant l'ampleur du saut. 2026, contrat des spectacles des compagnies résidentes. Printemps en marmelade, de Sursaut. Va falloir toujours, toujours, du Petit Théâtre, Le Prince et Querelle de Robert Val, du Double Signe. S'ajoutent 2 propositions de l'international, Des Papels, de la Chilienne Silencio Blanco, et La Ferme des Animaux, de la Française, Arfi. La programmation sera complétée par des spectacles de Bouge de là, L'arrière-scène, Le Clou, Création Bluette ou Dynamo Théâtre, entre autres, invités par Côté Scène et par 5 compagnies qui louent aussi la salle. Un gros changement, quoi. Forcément, on annonce un budget de fonctionnement de 1,2 million de dollars par an, précise Madame Bergeron, plutôt que les 300 000 que gérait jusqu'à maintenant Côté Scène. Pour cette première année, je veux faire connaître la valeur du théâtre et de la danse qui circulent ici au Québec et dire à mon public « Regardez, il y a tout ça et ça va passer ici. » C'est la première étape et c'est risqué financièrement parce que j'y vais all in, dit-elle en se croisant les doigts à l'écran. Je mise sur une grande fréquentation alors que je ne sais pas encore où est mon point d'équilibre budgétaire, poursuit Madame Bergeron, ni à quel point la salle doit se remplir pour y arriver. Parce que je ne sais pas comment mon public scolaire sherbrookois et de l'Estrie va réagir. École et profs Vont-ils venir plus souvent? Pour quel type de spectacle? Ça reste à découvrir. De longue haleine. Avant le grand espace, on était tous un peu itinérants quand venait le temps de jouer, explique Lily Bergeron. Les compagnies fondatrices se donnaient essentiellement au théâtre Léonard-Saint-Laurent, dans une école en dessous d'un gymnase où il n'y a pas de structure d'accueil et où, lors de matinées scolaires, c'est arrivé qu'on entende les ballons de basketball nous rebondir au-dessus de la tête. Pour ne pas créer de concurrence malvenue avec les autres scènes de Sherbrooke, réflexions et discussions ont eu lieu avec le Granada, plus axé sur la musique, la toute petite boîte noire à la programmation marginale et le Centre culturel de l'Université de Sherbrooke, qui mise sur le spectacle grand public. On a respecté l'écologie et fait grandir notre projet une marche à la fois à partir de fondements solides, en rappelant régulièrement à tous que l'Estrie comptait parmi les fréquentations les plus basses au Québec pour le spectacle jeune public, selon une étude de 2009 du CQT. Au point où la Ville a voulu y remédier, le projet a bénéficié d'un soutien municipal exceptionnel, et ce, malgré trois changements d'administration municipale. Sherbrooke a investi 7,09 millions de dollars sur un budget total de 22,79 millions de dollars. Québec a donné de son côté 9,3 millions. Patrimoine canadien 5,4 millions et Côté Seine a su aller chercher 1 million en financement privé. « Hey, on est en train d'ouvrir un nouveau théâtre !» s'exclame Lily Bergeron en conclusion. « C'est rare. Et il y a quelque chose là qui tient du petit miracle. On a construit en pensant tout du long au public, au jeune public, les portes d'accès, le foyer d'accueil et aux créateurs. Les professionnels qui sont venus à l'inauguration, comme les scénographes, nous ont dit que des théâtres comme ça, on n'en voit plus. Les mécènes de Côté Seine. Côté Seine a réussi à lever 1 million de dollars en financement privé pour son projet du grand espace. Une mécène de la région a fait un don généreux qui a ouvert la porte à celui de Desjardins. Les compagnies fondatrices ont réussi ensuite à doubler ce montant. On a été un peu comme la bougie d'allumage du financement privé, confie cette mécène qui a parlé anonymement afin d'éviter la sursollicitation. Dans ma famille, notre mentalité, c'est d'être là pour les régions où c'est plus difficile d'avoir des gens qui investissent qu'à Montréal, par exemple. La question que je me pose, c'est « Qu'est-ce que je peux faire pour ma communauté, notamment en culture? » Elle poursuit « Jeune grand-mère, j'ai fréquenté le théâtre jeunesse avec ma petite fille. 2 ans. Elle était émerveillée. Il y a beaucoup de choses en sport pour les enfants. Le théâtre et la danse permettent de mettre des mots sur des émotions. C'est de l'apprentissage affectif. Développer l'imaginaire et jouer et s'amuser. C'est ce qui est venu me chercher dans le projet du Grand Espace, explique-t-elle. C'était « Le Grand Espace, théâtre tout neuf pour les jeunes », un texte de Catherine Lalonde, paru le 25 juin 2025 dans Le Devoir.
La mairesse de Longueuil balise le vivre ensemble. Un texte de Marco Fortier, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir. La ville de Longueuil vient d'adopter une politique de vivre ensemble, basé sur l'interculturalisme qui mise sur la primauté du français et de la laïcité dans l'espace public. Cette mesure vise aussi à rendre la cinquième ville en importance au Québec plus inclusive envers les minorités culturelles qui forment le tiers de la population longueuilloise. Cette politique considère la diversité comme une richesse et un moteur d'innovation, de cohésion et de développement social et économique. En énonçant des valeurs communes à tous les citoyens de Longueuil, ce plan se distingue du multiculturalisme canadien qui valorise la diversité culturelle dans une optique de cohabitation entre les groupes sans affirmation d'un pilier majeur, précise le document, adopté la semaine dernière par le conseil municipal. Signe des temps, la moitié du conseil municipal est formée d'élus issus de la diversité depuis le scrutin de 2021, une première en plus de 360 ans d'histoire, souligne la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier. Un conseil interculturel a été mis en place en 2022. Le conseil a mené des consultations en vue d'élaborer cette politique d'interculturalisme. Plus d'une quinzaine de citoyens et d'experts ont témoigné. La politique sur le vivre ensemble instaure les principes d'équité, de diversité et d'inclusion, EDI, dénoncés par ses critiques comme étant « woke ». Il n'y a pourtant rien de scandaleux là-dedans. Il s'agit simplement de garantir pour tout le monde l'accès aux ressources et aux occasions en matière d'emploi, de justice, de services et de logement, indique le document de la Ville. Une approche intersectionnelle permettant d'identifier les citoyens selon leur genre, leur âge, leur orientation sexuelle ou leur handicap fait aussi partie de la stratégie longueuilloise. La mairesse précise qu'il est hors de question d'instaurer des quotas d'emploi réservés aux représentants de la diversité dans l'administration municipale. Les hommes blancs peuvent postuler pour tous les postes affichés par la Ville. Inclusion en français. La politique prévoit néanmoins que l'interculturalisme soit institutionnalisé dans le fonctionnement de la Ville en intégrant la diversité culturelle dans toutes les sphères d'action municipale, des politiques aux services quotidiens. Par exemple, la Ville compte renforcer ses partenariats avec les organismes communautaires pour franciser les nouveaux arrivants. La Ville communique uniquement en français avec ses citoyens. Mais Catherine Fournier prône la patience face aux immigrants qui peinent à maîtriser la langue officielle du Québec. On doit inclure les nouveaux arrivants en français, dit la mairesse. La Ville compte encourager la tenue d'événements, de festivals ou de spectacles mettant en valeur la diversité longueuilloise pour rassembler les gens de toutes les origines. Des formations sur la diversité culturelle seront aussi offertes à des employés municipaux. La politique prévoit une série d'autres initiatives pour valoriser la diversité longueuilloise. En matière de toponymie, l'apport de femmes ou de personnalités issues des minorités sera reconnu. Valeurs québécoises. La mairesse s'intéresse depuis longtemps à l'interculturalisme en tant que modèle québécois du vivre ensemble. Elle avait déposé un projet de loi en 2019 quand elle était députée indépendante pour enchâsser ce modèle dans la législation. L'initiative avait été mise de côté par le gouvernement Legault, qui s'est néanmoins inspiré de l'interculturalisme pour son projet de loi sur l'intégration nationale des nouveaux arrivants adoptée en mai 2025. La politique longueuilloise s'inspire de valeurs évoquées dans la loi québécoise sur l'intégration, mais va plus loin, affirme Catherine Fournier. La politique s'adresse à tout le monde, pas uniquement aux nouveaux arrivants. Il y a une notion de réciprocité qui est importante pour nous. La société d'accueil, qui forme une mosaïque très diversifiée, a un rôle à jouer, fait valoir la mairesse. La ville, en tant que gestionnaire des milieux de vie, s'engage à créer les conditions d'une pleine participation à la vie civique et à l'emploi, en français, des personnes de toutes origines, en toute équité et dans le respect des valeurs démocratiques garantes de la cohésion sociale, précise la politique. La laïcité fait ainsi partie des valeurs québécoises et longueuilloises, souligne-t-on. La ville a déjà eu des demandes pour la tenue d'activités religieuses dans des bibliothèques municipales, rappelle la mairesse. La politique vient baliser ce type de demande. Il n'y a pas d'activités religieuses dans les immeubles municipaux. Les citoyens ont le droit de se présenter à la bibliothèque, par exemple, avec un signe religieux, mais les services se font à visage découvert, il va sans dire, dit Catherine Fournier. Un centre de congrès et un hôtel près du métro. La ville de Longueuil projette d'ajouter un hôtel, un centre de congrès et des logements dans deux des nouvelles tours de 30 étages chacune qui seraient aménagées près de la station de métro locale. Le projet, qui sera confié à un promoteur privé, prendrait place sur un terrain de la ville situé à l'angle de la rue Saint-Charles et de Place Charles-Lemoyne, en face du campus longueuillois de l'Université de Sherbrooke. Il serait aussi possible de construire une salle de spectacle sur un lot adjacent aux tours planifiées, indique-t-on au Devoir. Cette portion de terrain sera réservée jusqu'à ce que le théâtre de la ville ait déterminé s'il souhaite un nouveau bâtiment ou rénover ses installations actuelles. C'était « La mairesse de Longueuil balise le vivre ensemble », un texte de Marco Fortier, paru le 19 juin 2025 dans Le Devoir.